Bonsoir Sophie, Laurence, et meilleurs vœux pour cette année 2014.
Merci et bien bonne année à toi et à tous. Que l'année qui vient, qui a commencé déjà, apporte autre chose que ce qu'on a eu l'année dernière, de plus joli. Hein? Alors je vais d'abord commencer l'émission avec un hommage que je veux rendre à un artiste qui vient de mourir, un artiste jeune encore, en plein essor, Philippe Boudriau. Chanteur lyrique, chef de chœur, d'orchestre, maître enseignant en son art, la musique. Avec lui et sa patience pour une élève comme moi, une élève âgée, avec lui j'ai repris confiance en mes capacités vocales que je croyais perdues. Ce fut une connaissance, une découverte dans son enseignement rigoureux et sensible. Son immense talent, sa capacité d'action et de travail, son courage, son grand sens musical et à tous, sensible à tous, une modestie étonnante, les choristes, les musiciens de l'orchestre, tous ont été dans un immense chagrin à ces obsèques qui ont lieu jeudi dernier. Voilà, je voulais parler de lui parce que c'est une grosse perte. Maintenant, parlons poésie et je peux dire adieu Philippe. Je te dis adieu Philippe en poésie que tu aimais tant. Toi si chaleureux jusqu'au bout, portant l'espoir au-delà de ta personne, nous te pleurerons longtemps. Nous allons commencer par un philosophe poète que vraiment on ne peut pas ne pas connaître. Il s'appelle Gaston Bachelard et il a écrit 8 livres, je crois, sur beaucoup de choses, surtout sur le vivant, la matière, enfin toutes sortes de choses et surtout la philosophie. Et il a un petit livre qui s'appelle « La poétique de la rêverie ».« La poétique de la rêverie ». Écoutons sa voix, écoutons-le. Enfin, j'aimerais bien qu'on entende sa voix parce que c'était un homme qui avait un merveilleux accent d'une province française, je ne sais pas laquelle. Et c'était, on n'entend plus ce genre d'accent, c'est dommage. Voilà. Donc, nous opposerons le rêve à la rêverie. Alors, dans nos amours en paroles, dans les rêveries où nous préparons les paroles que nous dirons à l'absente, à l'absent, les mots, les beaux mots, les mots. Les beaux mots prennent une pleine vie et il faudra bien qu'un psychologue vienne un jour étudier la vie en parole, la vie qui prend un sens en parlant. Nous croyons pouvoir montrer aussi que les mots n'ont pas exactement le même poids psychique selon qu'ils appartiennent au langage de la rêverie ou au langage de la vie claire. Au langage reposé ou au langage surveillé, au langage de la poésie naturelle ou au langage martelé par les prosodies autoritaires. Le rêve nocturne peut bien être une lutte violente ou rusée contre les censures. Dans la rêverie solitaire, nous pouvons nous dire tout à nous-mêmes. Nous avons encore une assez claire conscience pour être sûrs que ce que nous disons à nous-mêmes, nous ne le disons vraiment qu'à nous-mêmes. Et ainsi de suite, il faut lire. Donc, là, pour nous connaître doublement, en être réel et en être idéalisant, il nous faut écouter nos rêveries. Ah, rêverie. Alors, nous allons passer à un poète qui est aussi un grand rêveur de rêverie. Enfin, c'est pas la même chose que le rêve qu'on fait en dormant. C'est le rêve. La rêverie, c'est ce moment où nous avons une espèce d'absence que les enfants ont beaucoup. Et c'est très intéressant parce que là, il se passe quelque chose pour la création de soi, peut-être. Nous allons dire d'alcool, d'un extrait d'alcool, Guillaume Apollinaire, un petit poème qui s'appelle Clotilde. L'anémone et l'ancolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie entre l'amour et le dédain. Il y vient aussi nos ombres que la nuit dissipera, le soleil qui les rend sombres avec elles disparaîtra. Les déités des eaux vives laissent couler leurs cheveux. Passe, il faut que tu poursuives cette belle ombre que tu veux. Après, nous allons parler à l'automne, toujours Apollinaire. Automne. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. En s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne a fait mourir l'été, dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Marie. Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand? C'est la maclotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimer à peine, et mon mal est délicieux. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent. Des soldats passent et que neige, un cœur à moi, ce cœur changeant, changeant et puis encore, que sais-je? Sais-je où s'en iront tes cheveux, crépus comme mer qui moutonne? Sais-je où s'en iront tes cheveux et tes mains feuilles de l'automne qui jonchent aussi nos aveux? Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine. Il s'écoule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine? Aussi toujours d'Apollinaire, une très belle, on peut dire une sorte de chanson. D'ailleurs, ce poème que je viens de dire, ça pourrait être une chanson. Mais disons, la chanson cache les paroles, alors donc évitons la chanson. Donc, la Lorelai, écoutons. À Bacharach, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque le fit citer. D'avance, il l'absolvit à cause de sa beauté. Oh, belle Lorelai aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Je suis lasse de vivre et mes yeux sont maudits, ceux qui m'ont regardé évêque en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes et non des pierreries, jetez aux flammes cette sorcellerie. Je flambe dans les flammes, ô belle Lorelai, qu'un autre que te condamne, tu m'ensorcelis. Évêque, vous riez, priez plutôt pour moi la Vierge, faites-moi donc mourir et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain, faites-moi donc mourir puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal, il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fit si mal un jour où il s'en alla. L'évêque fit venir trois chevaliers avec leurs lances, mener jusqu'au couvent cette femme en démence. Va-t'en, Laure, en folie, va, Laure, aux yeux tremblants, tu seras une nonne vêtue de noir et de blanc. Puis ils s'en allèrent sur la route tous les quatre. La Lorelai les implorait, ses yeux brillaient comme des astres. Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château. Pour me mirer une fois encore dans le fleuve, pour... Puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. Là-haut, le vent tordait les cheveux déroulés, les chevaliers criaient « Lorelai ! Lorelai !» Là-bas, tout là-bas sur le Rhin, s'en vient une nacelle, et mon amant y tient. Si tiens, il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tomba dans le Rhin. Pour avoir vu dans l'eau la belle Lorelai, ses yeux couleur du Rhin, ses cheveux de soleil. Voilà, Apollinaire. Admire d'abord, tu comprendras ensuite. Silence. Au féminin, sentir sa féminité essentiellement. Mot au féminin, vertu qui laisse toute parole pénétrer en lui jusqu'à la matière du verbe. Silence, impératif masculin. Mais dans une âme solitaire, le silence prépare l'atmosphère pour une anima tranquille. Je te disais, tais-toi, quand tu ne disais rien. Francis James. Mon silence est féminin, étant de la nature, de l'espace. Edmond Gilliard. Il dit aussi, Edmond, « Espace est une outre où on entend les rumeurs du féminin. Mon outre est une grande ouverture d'espace. Des voix vont naître de la fécondité toute féminine de l'espace, de la nature. Si j'étais plus sûre de mon métier, écrit-il, comme je mettrais fièrement mon enseigne, ici, l'on décrasse les mots, regratteurs de mots, décrotteurs de vocables. Oui, dur, mais utile métier. Bon, l'anima. Je vais vous raconter une petite histoire de Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, grand poète provençal, quand il était gosse, tout petit, enfin il marchait, il avait une manie, il y avait un étang près de sa maison où poussaient des fleurs de glais. Alors je pense que c'est comme des nénuphars, je ne sais pas. Et il rentrait dans l'étang, bien sûr qu'il ne devait pas être très profond, puisque sa mère allait le chercher et le ramenait. Mais il repartait tout le temps dans cet océan, pour lui, dans cet étang, pour ces fleurs-là. Et alors, plusieurs fois, il a fallu que sa mère aille le chercher et le ramène dans son tablier et finit par le mettre dans sa berce. Voilà un mot normalement masculin, le berceau. Mais Mistral raconte cette histoire et parle de sa berce. C'est pas beau, ça ? Le berce au féminin. Voilà, le berceau au féminin. Donc, ce féminin masculin, dans cette œuvre-là de Bachelard, c'est très intéressant de l'étudier. Il parle de l'anima, l'animus. Anima, féminin, animus, masculin, peut-être. Enfin, c'est quelque chose d'assez étrange et d'assez fascinant. Des voix vont naître de la fécondité, ça oui. Mais aussi peut-être de la masculinité. Mais enfin, c'est à réfléchir. Edgar Poe rêvait-il d'un mot lorsque la draperie du rideau de la fenêtre se gonflait et prenait volume? La chambre est pleine de mots qui circulent dans l'ombre, objets fantômes, les choses. Il faut laisser aux mots le temps de rêver, où l'on entend les rumeurs du monde, hein, comme dans un coquillage. La rumeur marine. Alors, je vais vous dire quelques vers de Mallarmé que j'aime beaucoup. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre? Ce lac dur, oublié, que hante sous le givre. Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui, etc., etc. Je voudrais parler d'un personnage, d'un auteur qui n'est pas, mais qui s'adresse au poète. C'est un physicien. Moi, je suis fascinée par la science, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on découvre. Et Danielson a écrit un bouquin qui s'appelle « La physique racontée aux poètes et aux enfants », que j'aime beaucoup. Alors, c'est juste le rêve de Pythagore, où nous constatons que les trous noirs ne sont pas éternels. Sommes conseillés pour améliorer notre mémoire et apprenons enfin ce que c'est qu'une corde. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, vivait en Grèce un personnage assez particulier, Pythagore. Il était connu comme philosophe, mais on lui attribuait de nombreux exploits, des pouvoirs presque magiques. Il aurait, par exemple, mordu à mort un serpent venimeux. Les pythagoriciens avaient aussi leurs idées concernant le cheminement de l'âme. Le plus étrange est que pour les pythagoriciens, l'essence de la nature et de l'existence était composée de paroles. Tout est parole. Pythagore avait un rêve. Il rêvait d'un monde régi par les lois mathématiques semblables à celles découvertes dans les harmonies musicales. En modifiant la longueur des cordes en vibration, Pythagore avait découvert comment les belles mathématiques pouvaient décrire le lien entre d'harmonieuses sonorités. Étant donné que les planètes en mouvement dans le ciel suivent aussi des lois mathématiques, on pouvait presque associer ces mouvements à des mélodies caractéristiques. On retrouve cette idée d'une musique des sphères dans la littérature, par exemple dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Même le plus petit des astres que tu contemples chante comme un ange dans le cœur des jeunes chérubins. Des siècles de recherche ont pourtant montré que le silence règne en maître là-haut. Les mouvements des planètes ne font pas résonner une musique de sphère. La physique moderne a trouvé des indices montrant plutôt que c'est la création dans son ensemble qui est une symphonie pour instruments à cordes. En revanche, ces cordes sont petites, petites, plus petites que tout. Il faut autant de cordes alignées pour aller de vos pieds à votre tête. Il faut autant d'atomes alignés pour aller de l'autre côté de l'univers. Ou autant de cordes qu'il faudrait de grains de sable pour faire un tas de gras, de sable gros comme le soleil. Dans ce monde de la théorie des cordes, les plus petites composantes ne sont pas des particules rondes, mais plutôt des cordes tendues et en vibration. Selon les vibrations, les cordes produisent des sons différents. À chaque son correspond une particule, un électron, un photon, un quark ou autre chose. la musique ainsi composée reflète le monde lui-même.
C'est clair?
Ah, il faut le lire, ce livre. Hein. Voilà. Donc, Danielson. Je voudrais aussi, dans la préface des Fleurs du Mal, parce que Baudelaire est toujours un poète extrêmement moderne. La préface des Fleurs du Mal. Vous savez qu'il a eu beaucoup d'ennuis avec ses Fleurs du Mal. Des procès, des critiques, des méchancetés, on peut dire aussi. Donc, la préface des Fleurs. Donc, c'est à la fin de son livre sur les Fleurs du Mal qu'il écrit cette préface. Ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes sœurs que ce livre a été écrit, non plus que pour les femmes, les filles et les sœurs de mon voisin. Je laisse cette fonction à ceux qui ont intérêt à confondre les bonnes actions avec le beau langage. Je sais que l'amant passionné du beau style s'expose à la haine des multitudes. Mais aucun respect humain, aucune fausse pudeur, aucune coalition, aucun suffrage universel ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce siècle, ni à confondre l'encre avec la vertu. Des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile. D'extraire la beauté du mal. Ce livre essentiellement inutile et absolument innocent n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle. Quelques-uns m'ont dit que ces poésies pouvaient faire du mal. Je ne m'en suis pas réjoui. D'autres, de bonnes âmes, qu'elles pouvaient faire du bien. Et cela ne m'a pas affligé. La crainte des uns et l'espérance des autres m'ont également étonnée et n'ont servi qu'à me prouver une fois de plus que ce siècle avait désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature. Malgré les secours que quelques cuistres célèbres ont apportés à la sottise naturelle de l'homme, je n'aurais jamais cru que notre patrie pût marcher avec une telle vélocité dans la voie du progrès. Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion. Mais il est des carapaces heureuses que le poison lui-même n'entamerait pas. J'avais primitivement l'intention de répondre à de nombreuses critiques et en même temps d'expliquer quelques questions très simples, totalement obscurcies par la lumière moderne. Qu'est-ce que la poésie ? Quel est son but ? De la distinction du bien avec le beau, de la beauté dans le mal, que le rythme et la rime répondent dans l'homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise, de l'adaptation du style au sujet, de la vanité, du danger, de l'inspiration, etc., etc. Mais j'ai eu l'imprudence de lire ce matin quelques feuilles publiques. Soudain, une indolence du poids de 20 atmosphères s'est abattu sur moi et je me suis arrêtée devant l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui savent me devinent et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. Thank you. toujours avec Baudelaire. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Et bien sûr, nous sommes invités au voyage, l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douleur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ah, quelque chose, le rêve d'un curieux, toujours dans le rêve, toujours dans Baudelaire. Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse, et de toi fais-tu dire « Oh, l'homme singulier !» J'allais mourir. C'était dans mon âme amoureuse, désir mêlé d'horreur, un mal particulier, angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse. Plus allait, se vidant le fatal sablier, plus ma torture était âpre et délicieuse. Tout mon cœur s'arrachait au monde familier. J'étais comme l'enfant avide du spectacle, haïssant le rideau comme on est un obstacle. Enfin la vérité froide se révéla. J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore m'enveloppait. Et quoi ? N'est-ce donc que cela ? La toile était levée et j'attendais encore. Aussi, pour rester dans Baudelaire, un poème qui s'appelle « Bénédiction ». Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée, pleine de blasphèmes, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision ? Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation. Je ferai rejaillir ta haine qui m'accable sur l'instrument maudit de tes méchancetés. Et je tendrai si bien cet arbre misérable qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés. Elle ravale ainsi l'écume de sa haine et, ne comprenant pas les desseins éternels, elle-même prépare au fond de la géhenne les bûchers consacrés au crime maternel. Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Il joue avec le vent, cause avec le nuage et s'enivre en chantant du chemin de la croix. Et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage pleure de le voir gai comme un enfant, un oiseau des bois. Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte, ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité, cherchent à qui saura lui tirer une plainte et font sur lui l'essaim de leur férocité. Dans le pain et le vin destinés à sa bouche, ils le mêlent à la cendre avec d'impurs crachats. Avec hypocrisie, ils jettent ce qu'ils touchent et s'accusent d'avoir mis leurs pieds dans ses pas. Sa femme va criant sur les places publiques, « Puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer, je ferai le métier des idoles antiques et comme elle, je veux me faire redorer. » Et je me saoulerai de nard, d'encens, de myrrhe, de génuflexion, de viandes et de vins, pour savoir si je puis, dans un cœur qui m'admire, usurper en riant les hommages divins. Et quand je m'ennuierai de ces farces impies, je poserai sur lui ma frêle et forte main. Et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin. Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein et pour rassasier ma bête favorite, je lui jetterai par terre avec dédain. Vers le ciel où son œil voit un trône splendide, le poète serein lève ses bras pieux et les vastes éclairs de son esprit lucide lui dérobent l'aspect des peuples furieux. Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Je sais que vous gardez une place au poète dans les rangs bienheureux des saintes légions et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus, des dominations. Je sais que la douleur et la noblesse unique ou ne mordront jamais la terre et les enfers, et qu'il faut, pour tresser ma couronne mystique, imposer tous les temps et tous les univers. Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre, les métaux inconnus, les perles de la mer, par votre main montées, ne pourraient pas suffire à ce beau diadème éblouissant et clair. Car il ne sera fait que de pure lumière, puisée au foyer saint des rayons primitifs, et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière, ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs. Donc, revenons à Bachelard. Le progrès de la connaissance scientifique anéantissent même le cadre des anciennes explications qui définissent à trop bas marché les caractères cosmiques de la nature humaine. Une fois évincée toute référence à des polarités physiques, le problème de la polarité psychologique qui a tant occupé les romantiques reste posé. À suivre. Ouais, un être qui se divise à nouveau à peine s'est-il confié un instant à une illusion d'unité ? Il se divise, puis se réunit. Sur le thème d'animus et d'anima, s'il allait à l'extrême de la division, il deviendrait une grimace de l'homme. De telles grimaces existent. Il y a des hommes et des femmes qui sont trop hommes. Il y a des hommes et des femmes qui sont trop femmes. La bonne nature tend à éliminer ses excès au profit d'un commerce intime dans une même âme, des puissances d'animus et d'anima. À méditer. Une enfance potentielle est en nous. L'être de la rêverie traverse sans vieillir tous les âges de l'homme, de l'enfance à la vieillesse. Et c'est pourquoi, tard dans la vie, on éprouve une sorte de redoublement de rêverie quand on tente de faire revivre des rêveries d'enfance. Ce redoublement de rêverie, cet approfondissement de rêverie que nous éprouvons quand nous rêvons à notre enfance, explique que dans toute rêverie, même celle qui nous prend dans la contemplation d'une grande beauté du monde, nous nous trouvons bientôt sur la pente des souvenirs. Insensiblement, nous sommes ramenés à des rêveries anciennes, si anciennes soudain que nous ne pensons plus à les dater. Une lueur d'éternité descend sur la beauté du monde. Nous sommes devant un grand lac dont les géographes savent le nom au milieu de hautes montagnes et voici que nous retournons à un lointain passé. Nous rêvons en nous souvenant. Nous nous souvenons en rêvant. Nos souvenirs nous redonnent une simple rivière qui reflète un ciel appuyé aux collines. Mais la colline grandit, l'anse de la rivière s'élargit, le petit devient grand. Le monde de la rêverie d'enfance est aussi grand, plus grand que le monde offert à la rêverie d'aujourd'hui. De la rêverie poétique devant un grand spectacle du monde à la rêverie d'enfance, il y a commerce de grandeur. Et c'est ainsi que l'enfance est à l'origine des plus grands paysages. Nos solitudes d'enfants nous ont donné les immensités primitives. Il parle d'un type de poème qui s'appelle « Jour de béton » et il cite « Le monde chancelle lorsque je tiens de mon passé de quoi vivre au fond de moi-même. » C'est un Paul Chollot, « Jour de béton ». Donc les poètes se retrouve toujours. Qu'on nous laisse donc rêver sans chiffres à notre jeunesse, à notre enfance, à l'enfance. Nous allons écouter maintenant un poète qu'on n'entend pas souvent, de grand talent, Jules Laforgue. D'ailleurs, il y a eu des poèmes qui ont été mis en chanson. Alors, nous allons commencer d'abord par une petite misère d'hiver. Vers les libellules, d'un crêpe si blanc des baisers qui frémissent de se poser, venus de si loin sur leurs bouts cicatrisés, ces seins déjà fondants ondulent d'un air somnambule. Et ces terres en lice dans les défoncés des divans, rembourrés d'acide, d'éder dissolvant, le signe du Saint Graal qui rame en avant, mais plus pâle qu'une banquise qu'avril dépayse. Puis, ça vous réclame avec des mots d'enfant goulus du romanesque à l'absolu, mille pôles plus loin que tout ce qu'on a lu. Laissez le signe, ô femme, qu'il glisse, qu'il rame. Oh, que d'une haleine il monte séchant vos crachats au Saint Graal des blancs pachas et n'en revienne qu'avec un plan de rachat pour sa petite sœur humaine qui fait tant de peine. Un peu mystérieux. Et aussi une petite misère d'août. Toujours sont des misères. Hein. Oh, quelle nuit d'étoiles, quelle saturnale. Oh, mais des galas inconnus dans les annales sidérales. Bref, un ciel absolument nu. Oh, loi du rythme sans appel, que le moindre astre certifie par son humble chorégraphie, mais nul spectateur éternel. Oh, la terre humanitaire n'en est pas moins terre à terre. Au contraire, la terre, elle est ronde comme un pot-au-feu, C'est un bien pauvre monde dans l'infini bleu. 5 sens seulement, 5 ressorts pour nos essors. Oh, ce n'est pas un sort. Quand donc nos cœurs s'en iront-ils à 8 ressorts? Alors, l'avant-dernier mot. L'espace, mon cœur y meurt sans trace. En vérité, du haut des terrasses, tout est bien, sans cœur. La femme, j'en sors, la mort dans l'âme. En vérité, mieux ensemble on pâme, moins on est d'accord. Le rêve, c'est bon, quand on l'achève. En vérité, la vie est bien brève, le rêve bien long. Que faire alors du corps qu'on gère? En vérité, ô mes ans, que faire de ce riche corps? Ceci, cela, par-ci, par-là. En vérité, voilà. Et pour le reste, que tout met en sa merci. Chez un poète qui s'appelle Charles Dobzhinsky, mais il est plutôt là, il commente. Il commente à propos de l'enfance, justement. Et Charles Dobzhinsky, je l'ai rencontré, il a beaucoup traduit Nazim Hikmet, qui était un ami. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec lui, c'était un événement pour moi. Donc là, C'est un petit texte parmi tant d'autres. Il parle beaucoup des émissions que André Weinstein, Weinstein, c'était une émission type formidable. Je ne sais plus à quelle heure ça passait, mais je l'écoutais souvent. Il est mort maintenant. Et il a parlé beaucoup de la poésie, comme j'aime, comme j'essaye de faire aussi. Mais avec des moyens radiophoniques. Mais c'était une émission qui passait tard, qui n'était pas facile d'accès. Voilà. Et il parle du deuil. Le deuil est un autre temps, le deuil est un autre deuil. Dans le même temps qu'il fait de l'écriture le miroir inépuisable d'où émergent, s'évanouissent les images du passé, cette écriture agit d'une certaine façon comme sable mouvant. L'esprit s'y ensevelit, le corps risque de s'y enliser. D'où cette découverte perturbante et prenante d'un double versant des mots, qui n'est nullement un jeu mais un enjeu. J'écris « enfonce, enfonce, enfonce » et je lis « enfance ». Ainsi, à mesure que l'on s'enfonce dans le sable ou dans un puits, l'enfance est ce qui remonte, l'eau dilapidée d'une nappe phréatique. Le poète procède à une radiographie des entrailles du temps. Le temps de l'enfance perdue et le temps du père recherché forment les confluents d'un même fleuve. Mais au contraire, et ce parcours n'efface aucun paysage, n'éclipse aucune émotion, mais leur accorde une intensité peu commune. C'est ainsi que je vais de l'avant dans la nuit, en quête d'émotions encore jamais éprouvées. Chaque mot risqué est une façon de mordre l'air, d'empoigner la vie à deux mains, quoi qu'en disent tous ceux qui prétendent que l'écriture est d'un autre âge. C'est de Weinstein. Voilà ce qu'il y a d'admirable dans le livre de Weinstein, c'est qu'il est à l'opposé d'une marche funèbre. C'est qu'il a le don d'empoigner la vie à deux mains et au moyen de tous ses mots, de faire confiance à ce qui est la preuve et l'épreuve de l'émotion, comme pour démentir ceux-là qui croient pouvoir l'abroger en matière de poésie. Et du coup, on a le bonheur de saluer une écriture qui est totalement de notre âge. Charles Dobzinski. Alors on a peut-être le temps de terminer avec Bachelard. Il a écrit, Gaston Bachelard, il a écrit 8 beaux livres. Il faut vraiment les lire tous sur la matière. Mais alors d'une façon savante, de quelqu'un qui sait, et en même temps sur la poésie. Alors son rêve, la poétique de la rêverie, c'est un livre qui est dans les presses universitaires de France, dans l'édition Quadrige, je crois. Libre à nous, naturellement, de passer la main sur notre front et d'écarter toutes ces folles images, toutes ces rêveries sur la rêverie d'un philosophe occupé, inoccupé. Mais alors, il ne faut pas lire plus avant la page d'Henri Bosco. Il parle d'Henri Bosco, un merveilleux écrivain dont on parle peu. Il ne faut pas lire les poètes. Les poètes, en leur rêverie cosmique, parlent du monde en parole première, en image première. Ils parlent du monde dans le langage du monde. Les mots, les beaux mots, les grands mots naturels croient à l'image qui les a créés. Un rêveur de mots reconnaît dans un mot de l'homme appliqué à une chose du monde une sorte d'étymologie onirique. S'il y a des gorges dans les montagnes, n'est-ce pas parce que le vent, jadis, y a parlé. Dans les vacances du lundi, Théophile Gautier entend dans la gorge de la montagne des vents animalisés les éléments surmenés, hélas, de leur tâche. Il y a ainsi des mots cosmiques, des mots qui donnent l'être de l'homme à l'être des choses. Et c'est ainsi que le poète a pu dire: il est plus facile d'inclure l'univers dans un mot que dans une phrase. Les mots, par la rêverie, deviennent immenses. Ils abandonnent leur pauvre détermination première. Ainsi, le poète trouve le plus grand, le plus cosmique des carrés en écrivant « Oh, au grand carré qui n'a pas d'angle !» Ainsi, les mots cosmiques, des images cosmiques, tissent des liens de l'homme au monde. Un léger délire fait passer le rêveur de rêverie cosmique d'un vocabulaire de l'homme à un vocabulaire des choses. Les deux tonalités humaines et cosmiques se renforcent. Par exemple, écoutant les arbres de la nuit préparer leur tempête, le poète dira « Les forêts frissonnent sous les caresses du délire aux doigts de cristal. » Ce qu'il y a d'électrique dans le frisson, qu'il court sur les nerfs de l'homme ou sur les fibres de la forêt, a trouvé dans l'image du poète un détecteur sensible. De telles images ne nous apportent-elles pas la révélation d'une sorte de cosmicité intime ? Elles unissent au cosmos du dehors un cosmos du dedans. L'exaltation poétique, le délire aux mains de cristal, fait frissonner en nous une forêt intime. Dans les images cosmiques, il semble souvent que les mots de l'homme infusent de l'énergie humaine dans l'être des choses. Voici par exemple l'herbe sauvée par son humilité, par le dynamisme corporel d'un poète. L'herbe emporte la pluie sur ses millions d'échines, retient le sol de ses millions d'orteils. L'herbe répond à chaque menace en croissant. L'herbe aime le monde autant qu'elle m'aime. L'herbe est heureuse, que les temps soient durs ou non. L'herbe pousse enracinée. L'herbe chemine debout. C'est vrai, moi, je regardais souvent à Paris, où j'étais très triste de la vie, je ne pouvais pas la supporter, mais j'y apprenais beaucoup de choses, j'y rencontrais des gens merveilleux. À part ça, je cherchais partout la nature, partout je cherchais, je me cachais, je franchissais les jardins publics fermés, je passais par-dessus, j'allais me dormir dans le gazon, dans l'herbe. Et j'allais chercher, je regardais les herbes sortir des fentes au bas des murs, et ça me faisait plaisir. Moi, ça m'a toujours plu de voir cette force qui traverse les villes, surtout la ville de Paris, et elle est quand même, il y a des siècles que ça dure. Et je cherchais dans les dalles partout ce qui pouvait. Ça me rappelle aussi un poète qui est mort maintenant, un poète allemand, qui parlait, il était en prison, et sa seule joie, c'était de voir un pissenlit qui poussait au coin du fenestron derrière les barreaux, et il regardait, il a vécu toute la vie de ce pissenlit qu'il raconte d'une façon extraordinaire. C'est vrai. Aujourd'hui, c'était pas sur un poète, c'était sur un philosophe poète. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller chercher un peu des textes et de lire Danielson, la physique racontée aux poètes et aux enfants, parce que ça, c'est réjouissant. Et puis, bien sûr, ce qui est aussi réjouissant, c'est Bachelard, Gaston Bachelard.
Sophie Laurence, merci. Et puis, au mois prochain.
Oui.